Le patriarcat est une narration et elle a fait son temps.
Aujourd'hui, nous vivons encore les conséquences de l'esclavagisme et du colonialisme.
Sous la chape du silence,
nos cœurs vibrent et hurlent.
La vie palpite.
De l'air.
Pour faire notre chemin dans ce monde, nous avons besoin de force et de nuances.
Nous voulons partager ce qui nous tient.
Nous bouge.
Nous bouleverse.
Nous traverse. Nous voulons prendre le temps de déployer nos audaces.
Pour se délecter ensemble
des singularités.
C'est pas du courage, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi.
Et la poésie, ça casse les frontières. Et c'est cet espace pour l'imagination qui m'a permis d'accumuler de la force et de livrer mes batailles.
L'éclat des noctules, une émission féministe, radicale, tendre, joyeuse.
Sur Roi du Royan, 93 FM. Bonjour.
Bonjour.
Salut, salut.
Bonjour.
Aujourd'hui, on est quel jour aujourd'hui?
Le 27 juin.
On est le 27 juin.
Jeudi.
C'est un jeudi matin. Et on est en studio, Céline, Anaïs, Chico, oui, et Gaëlle. Et on avait envie de vous faire une petite émission juste avant le premier tour des législatives, un peu spécial. Et voilà. Donc c'était pour vous dire un peu le contexte actuel, quoi, de maintenant aujourd'hui.
Voilà, moi je vais vous introduire notre petit voyage, notre petite traversée. Donc j'ai écrit l'intro à la veille de l'enregistrement de cette émission hier soir, et j'arrivais pas à m'arrêter à faire des recherches. Les législatives anticipées auront donc lieu dans quelques jours et on sait pas encore ce qui va se passer. C'est un peu flippant. Donc nous, à la base, on avait prévu de faire une fiction pour ce mois de juillet, ce qui aurait été beaucoup plus léger. Mais voilà, on a été un peu secoué par l'actualité politique et c'était dur d'envisager de rien faire à ce propos. Donc on a décidé de faire cette émission qu'on a voulu antifasciste. Alors on va commencer par vous envoyer plein de force à vous tous pour trouver comment continuer à être généreuse, résistante, libre, empathique, joyeuse, ensemble, malgré les paroles et les comportements qui déshumanisent et qui objectisent, qui blessent, qui rabaissent et qui stigmatisent, qui attaquent la dignité humaine et détruisent la vie. Il y a plein de choses de produites, en fait, par différents médias. On est un peu assaillis, quoi, par toute cette actualité-là. Et donc, nous, on n'est pas journalistes, nous, on est des petites noctules bénévoles dans notre petit coin du Royaume. Donc voilà, même si les émotions de peur sont très contagieuses et qu'il y a de bonnes raisons de s'inquiéter, on a essayé de trouver à notre manière des fils à tirer par différents bouts et pas que des bouts badants. Un petit patchwork entre histoire, petit décryptage, témoignage, poème, extrait d'entretien avec Sama Jabr, par exemple, une psychiatre et psychothérapeute palestinienne. On va donc parler, entre autres, de l'histoire économique et démographique de notre petit coin du Royan, de comment c'est riche quand les personnes viennent d'ailleurs, et puis d'ailleurs, nous aussi, on vient d'ailleurs, et d'où ça vient les dénominations extrême gauche, extrême droite. On va aussi parler de comment prendre soin de nous tout en luttant contre cette extrême droite xénophobe, raciste et sexiste, entre autres. Voilà quoi, à chaque fois dans l'histoire, c'est dans les moments de crise que les idéologies fascistes prennent du pouvoir. Il y a en ce moment une crise mondiale de la démocratie et ça favorise les tendances nationalistes autoritaires. La France, elle subit à sa façon cette crise-là. Ces crises qui s'entretiennent les unes les autres dans une sorte de polycrise écologique, économique, politique, sociale, civilisationnelle et qui va en s'amplifiant. Et donc, on peut résister contre la haine et le mépris. Pendant mes recherches, j'ai trouvé un petit truc qui m'a fait plaisir, c'est d'où vient le mot complexe, parce que je trouvais que tout était très simplifié dans les réactions, les trucs que j'entendais à mon travail. J'ai trouvé ça qui était joli, je trouvais c'était que le mot complexe, il vient du latin complexus, et ça signifie embrasser, comprendre, et ce qui est tissé ensemble. Dans le langage courant, on croit que c'est l'opposé de simplicité, et donc souvent on croit que ça veut dire compliqué, complexe, et en fait ça veut dire embrasser. Alors je vais commencer, ça va pour vous?
Mmh.
Le nouveau tissu, ouais.
Je vais commencer par le truc le plus chiant de cette émission. C'était un petit point sur les contradictions entre les paroles et les actes de Bardella, notamment en tant que député européen. On pourrait faire pareil avec tout le RN et ses positionnements sur l'agriculture et l'écologie, entre autres. On va mettre des liens sur la page de l'émission.
Comme ça, c'est fait, quoi. On le fait dès le début, après, on...
Voilà, on a plein de choses. On a plein de choses passionnantes à partager. Mais voilà, quelquefois, ça fait du bien de remettre les points sur les i, surtout quand on entend beaucoup de personnes qui croient un peu que, quand même, pourquoi pas le RN. Donc, Bardella, au Parlement européen, il vote très souvent le contraire de ce qu'il déclare sur TikTok ou dans les médias français. Il fait, par exemple, de grands discours dans lesquels il célèbre les droits des femmes dans l'Union européenne. Et, dans le même temps, il ne... Alors là, c'est parti pour une petite liste. Ne s'oppose pas à l'interdiction de l'IVG en Pologne, deux fois consécutive, alors que l'énoncé est clair, cette situation met en danger la santé et la vie des femmes. Ensuite, il s'abstient sur le vote qui veut inscrire l'IVG comme droit fondamental dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en avril 2024. L'IVG comme droit fondamental est passé, mais voilà, donc Bardella, grand... défendeur des droits et de l'avancée des femmes, n'est-ce pas ? Donc, s'abstient sur ce vote-là. Dans un autre vote sur les droits des personnes LGBTQI+, en octobre 2022, il s'abstient aussi pour faire avancer la protection de ces personnes minorisées. De nous, quoi. Et aussi sur... l'égalité salariale, il y avait un vote sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Bardella s'abstient, encore une fois. Par contre, là, il est plus clair, il vote contre l'allongement de 2 semaines du délai autorisant l'avortement. Là, il est un peu plus clair. Et puis, voilà, pour avoir une idée un peu plus vaste de ce qu'est fait l'extrême droite ailleurs, quand il est au pouvoir, par exemple en Pologne, l'accès à l'IVG est quasiment interdit, ou par exemple en Italie, Meloni a voulu retirer les droits parentaux aux mères non biologiques, qui défait ainsi les liens familiaux. Pendant qu'on est sur cette lignée plutôt tournée féministe, toi, t'avais des choses à rajouter, peut-être, Jo ?
Oui, je voulais juste dire que le RN a voté contre une loi contre le harcèlement sexuel au Parlement européen, et particulièrement contre la ratification de la Convention d'Istanbul. Convention d'Istanbul, qui est une convention européenne sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Voilà. Juste comme ça, quoi.
Voilà, comme ça, quoi. Histoire qu'on se fasse pas trop d'idées. Sur les réseaux sociaux, encore une fois, c'est l'un des champions de la lutte contre le réchauffement climatique. En fait, la vérité, c'est que jamais il a voté un texte majeur au Parlement européen en faveur de cette lutte. J'ai repris 2 autres exemples plutôt sur le salaire minimum européen, par exemple. En octobre 2022, le Parlement européen vote en faveur d'un salaire minimum européen adapté à chaque pays. Bardella vote contre. Et également un texte de mars 2024 qui vise à mieux protéger l'indépendance des médias, dont ceux du service public, d'interdire l'espionnage des journalistes, de réduire l'ingérence des pouvoirs publics et privés. Bardella vote encore contre. En fait, d'une manière générale, la liberté de la presse est dans sa ligne de mire. Et c'est partout en Europe et dans le monde où l'extrême droite gouverne que la liberté de la presse est violemment attaquée, des interdictions de publication, la destruction de secrets des sources, la multiplication des procédures bâillons, des censures, des pressions, des intimidations, des assèchements des aides publiques à la presse. Donc, voilà, quelquefois, ça fait du bien de réentendre parce qu'il y a quand même plein de gens qui se laissent un peu emballer et embarrouler et balancer des paillettes alors que non, c'est pas du progrès qui nous attend avec une extrême droite au pouvoir.
Surtout, ils mentent, quoi.
Ils mentent, délibérément. Alors, pour finir ce petite introduction... on va écouter un petit poème.
Et en ces temps troublés, il y a aussi des poèmes qui circulent. Et c'est vrai que, ben, je sais pas, d'avoir accès à de la poésie, ça peut faire du bien. Ça ouvre sur d'autres imaginaires. Ça permet de se relier, d'être aussi avec les émotions, parce que il y a quand même pas mal d'émotions difficiles qui existent. Et du coup, bon, même si ça reste par mail et des fois on est encore tout seul devant son ordinateur, mais ça peut quand même faire du bien. Et du coup, voilà, on propose de vous en partager quelques-uns.
Je veux une parade. Je veux de la musique. Je veux des confettis. Je veux une fanfare pour ceux qui survivent en silence. Je veux une standing ovation pour tous ceux qui se lèvent et marchent vers le soleil quand une ombre les retient au fond d'eux-mêmes. Un poème de Rupi Kaur.
Et pour voyager un petit peu, parce que cette grande crise, elle concerne plein d'endroits dans le monde et que ça donnait envie de décaler un peu des enjeux français, j'avais envie qu'on écoute la palestinienne Sama Jabr. C'est un entretien qui date de 2018, qui a été enregistré par l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes au Moyen-Orient. Et Sama Jabr, elle est née le 8 août 1976 à Jérusalem. C'est une psychiatre et psychothérapeute et auteure palestinienne. Elle dirige l'unité de santé mentale du ministère palestinien de la Santé depuis 2016. Et elle publie des chroniques qui témoignent des conséquences psychiques de la vie sous l'occupation israélienne en Palestine. Elle est inspirée par le psychiatre anticolonialiste Frantz Fanon et ses champs d'action et de réflexion incluent les enjeux de santé mentale, le colonialisme et les droits humains universels. Elle est considérée comme l'une des meilleures expertes dans son domaine, dans le monde arabe. Voilà, on l'écoute.
J'étais hébergée par une famille américaine du Midwest Iowa. Et j'ai entendu tout le discours autour de musulmans, arabes et surtout les Palestiniens comme un prototype de terrorisme. Et à ce moment-là, j'avais assez d'anglais pour comprendre tous les discours, mais pas assez d'anglais pour débattre, pour avoir un argument contraire à ce que j'ai entendu. Et j'ai pris la décision de commencer de travailler sur mon anglais pour que je puisse argumenter cette représentation qui est faite pour les Palestiniens. Et à la fin de mes études de médecine, j'ai commencé l'écriture juste après cet événement. Peut-être il m'a pas pris plus d'un an de commencer à publier mes articles. J'ai commencé d'écrire pour un journal local en Palestine, JMCC, Jerusalem Media Center. Et puis j'ai commencé d'écrire pour The Washington Report on Middle East Affairs. Et quand j'ai fait les études en psychiatrie, mon travail comme médecin, psychiatre, ça m'a fait plus proche des expériences des gens et ça m'a influencé, ça m'a obligé éthiquement de faire plus de témoignages sur les expériences des gens. J'ai commencé d'écrire sur les expériences des patients, mais pas seulement les patients, la famille, des gens que je rencontre, les copains, les études en psychiatrie et en psychologie m'a donné un langage universel parce que même les gens qui s'intéressent pas de politique, qui évitent le politique, qui considèrent que le politique il est très compliqué ou ils s'intéressent toujours des expériences humaines. Et la psychologie, il donne cette expérience, cet langage commun. Moi, j'ai compris beaucoup de choses sur la situation en Palestine quand je suis sortie de la Palestine. Et avant de parler de clinique, quand on parle des Palestiniens, les gens, ils peuvent imaginer, c'est vrai que la Palestine, elle est très, très petite sur la carte. Mais il y a des différences sociopolitiques très importantes. Et les défis sont différents. Il y a les Palestiniens de Gaza, les Palestiniens de Jérusalem, les Palestiniens de Cisjordanie, les Palestiniens de l'exil, de camps de réfugiés, de 48 avec une citoyenneté israélienne. Et les défis pour chaque groupe sont différents. Et cette fragmentation, c'est fait délibérément pour écraser les possibilités d'avoir des enjeux communs parmi les Palestiniens. Alors, cette fragmentation de l'identité palestinienne et cette création de défis différents, par exemple, à Gaza, les défis les plus importants, c'est de sécuriser un courant d'électricité, de l'eau potable. Et ce ne sont pas des défis à Jérusalem ou en Cisjordanie. À Jérusalem, le grand défi, c'est de gérer la menace que nous sommes des résidents temporaires. Parce que les Jérusalémites, ils sont des citoyens de nulle part dans le monde. Nous avons un carte de résidence qui peuvent être révoquées si on se comporte dans une façon qui peut être estimée par les Israéliens comme pas loyale. Si nous sommes estimés de se comporter dans une façon pas loyale à l'État d'Israël, ça peut avoir des conséquences de révocation de notre identité. Alors, c'est pour chaque groupe, il y a des défis différents, et même si c'est un discours politique, mais il touche la vie intime des gens. Par exemple, dans le cabinet, je vois une femme déprimée qui vient me parler de symptômes de dépression, manque de sommeil, pauvre appétit, et mal de inertie, mal de pas d'énergie pour faire les activités de tous les jours. Et puis quand je m'intéresse de son histoire personnelle, je lui fais parler des plus de détails. Elle me sort le fait qu'elle est mariée avec quelqu'un de Cisjordanie et c'est difficile, il est absent, il peut pas venir à Jérusalem. Et s'il vient à Jérusalem, ça s'éloigne de ses enfants qui peuvent pas traverser le checkpoint. C'est, les gens, ils présentent pas, ils mettent pas sur la table, la première chose, les problèmes politiques. Parce que il y a la présomption que je dois savoir. Ou ils sont très habitués à leur situation qu'ils ne la portent pas en avance. Mais il y a des détails politiques dans toutes les histoires personnelles des gens. Je vois des autres spécificités pour la population palestinienne. On parle d'une prévalence très élevée de l'expérience d'arrestation et d'emprisonnement. 20% des Palestiniens depuis 67 étaient arrêtés. Le maltraitement et la torture sont des expériences très communes. Et les gens, souvent, ils se plaignent pas de la torture parce qu'ils comprennent que ça arrive, ça fait partie de leur expérience. Il y a toujours dans leur tête quelqu'un qui était torturé pire qu'eux. Alors, ils peuvent pas comparer leur expérience aux expériences des autres personnes. Ils parlent pas de la torture comme une plainte principale de leur expérience. La résistance, c'est un... Je pense pas que les Palestiniens, ils doivent se emprisonner dans un choix statique pour leur résistance. Il y a plusieurs choix et les Palestiniens, ils ont besoin d'une stratégie de long terme de leur résistance qui inclut un spectre variant des choix de résistance selon les calculs de risque. Il ne faut pas oublier que n'importe quelle occupation, il est basé sur beaucoup de violence. Pour prendre la terre de quelqu'un, il faut faire beaucoup de violence, beaucoup d'objectification et de déhumanisation pour ces gens. Et souvent, il y aura une violence pas stratégique, mais réflexive, comme réflexion, comme réaction à cette violence énorme qui arrive de l'occupant. Et dans les choix des Palestiniens, dans la résistance des Palestiniens, souvent il n'y avait pas une stratégie. Il y avait plusieurs choix. Souvent c'était les choix des individus, comme les Palestiniens n'étaient pas organisés. Les Palestiniens, ils ont fait des fautes de leur choix, quelquefois. Je pense que les Palestiniens ont besoin d'une stratégie avec plusieurs choix. Je n'exclus pas les choix militaires et je comprends quelquefois les choix réflexifs de quelques-uns. Mais il faut tout le temps calculer le risque pour minimiser les pertes pour les Palestiniens et surtout pour garder une éthique pour les choix des Palestiniens. C'est important qu'on tombe pas, si on recadre notre lutte comme une lutte pour la réhumanisation du peuple palestinien, il faut pas tomber dans les mêmes outils des Israéliens. Il faut éviter les choses qui déhumanisent. Si on définit la lutte des Palestiniens comme une lutte pour la réappropriation de la terre, full stop, period, on va perdre au niveau éthique et au niveau humanitaire. Alors c'est pourquoi il faut reconsidérer les choix de résistance et les faire larges. Il ne faut pas nous aussi emprisonner seulement dans le choix de non-violence. Des choix éthiques, des choix qui évitent les outils des Israéliens, qui évitent la torture, par exemple. Oui, c'est très important. Mais pas seulement la non-violence.
Pray that my hope can stay on. Find ourselves away from our world. State of mind, it's all in our soul. It's all in our afraid of time, they try to sever. Don't remind, there's always more to fall. Can't be blind, cause it is right or wrong, and this ain't right but wrong. Sabah al-noor, sabah al-khair. We walk alone, we try to bear. Anything is a long, long way. Too much of cold in a warm, warm place. Sabah al-noor, sabah al-khair. We act like fools, we stay in place. Do anything in a long, long way. Too much of cold in a warm, warm place. All in we rise. It's been a hard, hard time for the ones who fight in the land of the now. You might have heard, we must have learned. It's a faded song. I happened times before. I real enough to be in touch. This need for justice, standing up so we can trust, should have been bloodless. Too many lives to be silenced in. Oh, we're too fighting to make sure that doesn't pass by. Cause we got the right. Sabah al-noor, sabah al-khair. We are alone, we try to bear. Do anything, it's a long, long way. Too much of cold in a warm, warm place. Sabah al-noor, sabah al-khair. We act like fools and stay in place. Do anything in a long, long way. Too much of cold in a warm, warm place.
There's a dream I have where these thieves, they don't flee or get away. That's a sweet dream where those who ain't had a chance prosper. Old total hold back, face on, take on the ways long, and we long home, chain strong, find out there's more to hold. Sabah al-Sabah al-Khair. We act like fools and we stay in place. Too much to solve, got a long way. Too much of cold in a warm, warm place.
C'était Gaïda, une chanteuse et autrice-compositrice soudanaise qui habite aux Pays-Bas. C'était un enregistrement qui a été fait par Colors. Le morceau s'appelle Morning Blue. Et c'était dans le cadre d'un plus grand projet pour faire la lumière sur le climat politique et social au Soudan. Le titre a été enregistré en 2019 et il fait référence à la campagne Blue for Soudan qui encourage les utilisateurs de réseaux sociaux à changer leur photo de profil en bleu, en solidarité avec le Soudan et aussi en l'honneur d'une victime de la protestation, dont la couleur préférée était le bleu. C'était aussi pour faire exister la guerre civile dévastatrice qui se passe au Soudan, l'alerte au génocide dans la région du Darfour et le fait que la France a expulsé encore des Soudanais malgré la situation là-bas. Ça me semblait important de le mentionner parce qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est grave ce qui se passe et qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'alertes par rapport à ce qui se vit là-bas. Voilà, c'était une belle chanson pour donner de la force aussi. Et Sama Jabre, c'était pour se baigner un peu dans de la finesse, des complexités, des considérations un petit peu plus fines que celles de Bardella, qui dit que reconnaître aujourd'hui l'État palestinien serait reconnaître le terrorisme. Et pour continuer sur cet usage sémantique intelligent ou pas,
plutôt pas.
On t'écoute, Anaïs.
Eh bien, alors, moi, je voulais vous faire un petit topo sur pourquoi il faut continuer à utiliser le terme extrême droite pour désigner le Rassemblement National, Reconquête, Debout la France. Du coup, si vous avez un peu écouté les médias ces derniers jours, vous avez sûrement remarqué la polémique « Peut-on parler d'extrême droite ?» qui est une polémique qui est amenée principalement par les acteurs de cette dernière, qui sont allés jusqu'à faire une requête au Conseil constitutionnel pour ne plus être catégorisé d'extrême. C'était en février dernier. Requête qui a été refusée, bien entendu. Mais ça ne les empêche pas de commencer à opérer un début de glissement langagier. Est-ce que vous l'avez entendu, par exemple, vous, qui êtes dans le studio?
Moi, j'ai beaucoup entendu droite radicale, et ça m'écorche, quoi.
Mm-hmm.
Comme si... Parce que j'ai regardé un peu radical, ça veut dire, genre, la racine, le fondement même. Sauf qu'en fait, la droite traditionnelle, elle est libérale. Donc, elle est pro-capital, mais sur des sujets de société, elle n'est pas complètement intolérante. On peut discuter de plein de choses, hein. C'est pas pour dire que je regrette les Républicains, hein, soyons clairs, mais juste, je trouve ça abusé d'utiliser ça pour... C'est pas la droite radicale, c'est l'extrême droite, c'est le fascisme.
Tout à fait. Et on entend aussi droite nationaliste. Ou éventuellement droite populiste, et ça c'est assez drôle parce qu'on dirait que pour elle, c'est comme si populiste, ça voulait dire populaire, genre stylé quoi. Bon voilà, ça fait partie des tentatives de dédiabolisation de ces partis, comme le changement de nom qui a été fait par Marine Le Pen il y a quelques années, et ça marche. La puissance du langage, c'est un peu un délire, donc attention. Pour clore le débat, qui n'en est pas un, une petite explication d'où vient ce terme. Alors, l'histoire de la droite et de la gauche, d'abord, c'est pendant les débats d'août et septembre 1789. Les députés favorables au maintien du pouvoir du roi se sont placés à la droite du président de l'Assemblée, et les partisans d'une limitation de ses pouvoirs à sa gauche. Aujourd'hui encore, plus les partis sont à gauche, plus ils sont progressistes. On parlera d'extrême quand il y a une remise en cause du capitalisme. Et donc, plus les partis sont à droite, plus ils sont conservateurs. Et pour les extrêmes, traditionnalistes et nationalistes à tendance autoritaire. Et ça correspond toujours à leur place dans l'hémicycle. Au palais, là-bas, là. Bon, pour appuyer mon propos, j'ai un extrait de l'émission « Avec philosophie » de Géraldine Mühlmann sur France Culture du jeudi 20 juin, où il y a une chercheuse qui s'appelle Bénédicte Laumont, qui est chercheuse en sciences politiques, qui disait « Il faut très fortement différencier l'utilisation des termes extrême droite, extrême gauche par les acteurs politiques, par les acteurs qui sont en campagne, de ceux que produit la recherche, la science politique. » C'est-à-dire que dans la campagne, ces termes, ils sont utilisés ou non utilisés à des fins politiques. Donc ce débat-là, il est... Voilà, il est... Bon, bref, vous avez compris. Or, il se trouve que les deux sphères que constituent d'un côté les acteurs étatiques reconnus comme le Conseil d'État, qui ont donc tranché sur la requête de s'appeler extrême droite ou pas, et de l'autre, les chercheurs qui sont indépendants, quand ils identifient des familles politiques, ils sont assez clairs. Les partis d'extrême droite sont identifiés par deux éléments centraux que l'on retrouve évidemment au RN et chez Reconquête, c'est l'ethnocentrisme et l'approbation des politiques autoritaires. Pour l'extrême gauche, c'est des partis politiques qui ont une opposition franche et claire au capitalisme. Voilà. Et du coup, pour finir, moi, ce mot de droite nationaliste, par exemple, qu'on peut pas mal entendre sur certaines chaînes qui sont un peu à la botte de ces courants-là, il est censé, pour eux, moins nous faire peur, mais personnellement, moi, il me fait tout autant peur que extrême droite, parce qu'il me rappelle le parti national-socialiste, qui n'est autre que le parti nazi. Donc j'ai envie de dire, continuons à les appeler extrêmes, et pourquoi pas FN, puisque rien n'a changé, et pour éviter le rassemblement.
Ok, voilà. Alors voilà, maintenant on a fini pour la sémantique, mais on continue sur, je sais pas comment dire, détricoter les choses, essayer de les expliquer un peu. Moi j'avais envie de parler de l'histoire de l'immigration dans le coin, pour avoir un petit aspect local. J'aurais voulu faire parler des personnes qui ont migré, qui sont arrivées dans le Royaume dans les années 70 et 80 et qui ont subi le racisme de plein fouet. Peut-être qu'ils ne comprennent toujours pas la haine contre les étrangers que beaucoup nourrissent à coups de médias Bolloré. Mais j'ai pas trouvé de personnes qui voulaient parler avec moi. Je vais pas non plus chercher partout, je suis pas allée dans la rue et tout, mais bon, j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Et donc je me suis rabattue sur une belle intervention d'un chercheur en anthropologie historique, Philippe Anus, qui a fait un exposé sur l'immigration dans le Royan et dans la Drôme, sur les ondes de Radio Royan. Donc je vous laisse écouter. Il parle du temps où le Royan ne votait pas en majorité pour le parti de la xénophobie.
Donc on a comme ça, dans notre région, dès l'ancien régime, vraiment une présence importante de travailleurs de la forêt, de travailleurs du métal. Et puis au XXe siècle, bon, il y a toutes les grandes tragédies du XXe siècle. Alors l'accélération des mobilités au XIXe avec la mise en place du chemin de fer, qui contribue, quand bien même il y a déjà mobilité, à accélérer, augmenter les flux de volume de circulation des marchandises et des individus. Et puis ensuite la mise en place des routes. Donc effectivement, avec le XXe siècle, est vraiment la structuration des États-nations, accélération des mobilités à l'échelle européenne. Alors dans notre région, on voit arriver des immigrants. Alors durant l'entre-deux-guerres. Dans la façade occidentale du Vercors, des Polonais, par exemple, qui viennent travailler dans les exploitations agricoles, notamment aux Écouges. Ça, c'est très intéressant. Et puis, des travailleurs un petit peu... On est à Saint-Jean-Royan, qui est une petite ville industrielle. Il y a donc des ouvriers dans les métiers du bois. Alors, les industriels du bois jurassien sont-ils des étrangers d'un certain... Moi, je viens du Jura. Maillet-Saint-Claude. C'est des pas d'ici, quand même. Mais quand même, voilà, ils ont aussi modernisé l'industrie du bois à Saint-Jean. Donc on peut considérer, vous voyez, comme ça qu'il y a une espèce d'accélération des flux, des mobilités. Et puis au XXe, les tragédies. Puisqu'on est à Saint-Jean, l'accueil des républicains espagnols, il y a donc à partir dès 1937, les premiers arrivent dans la région de Valence et puis de Saint-Jean. Et puis, il y a un sujet sur lequel j'ai particulièrement travaillé, qui était l'arrivée de ces femmes avec leurs enfants à Saint-Jean-Royan. Au moment de la retirada, il y a une photo absolument magnifique. On les voit fatiguées au terme de la quarantaine. Et je trouve que et je vais conclure là-dessus, je trouve que cette image extrêmement poignante de ces femmes épuisées au terme d'une errance au long cours, puisqu'elles sont passées Après, alors certaines arrivaient du sud de l'Espagne, d'Andalousie, puis ensuite on transitait par Barcelone, puis par les camps de la Méditerranée. Hein. Alors, ils sont très connus aujourd'hui, ces camps du Roussillon, le camp de Rivesaltes, le camp de Gurs, le camp de Saint-Cyprien, d'Argelès. Et puis ensuite, les familles ont été éclatées, les époux sont allés travailler dans des chantiers, alors on en trouve à Brive-la-Gaillarde, un peu partout, les familles éclatées. Puis certaines sont arrivées avec leurs enfants en bas âge à Saint-Jean-Royan, où il y a eu un formidable comité d'accueil. N'oublions pas non plus les immigrés du Maghreb, hein, qui travaillent aussi en milieu rural, tous les représentants de l'immigration postcoloniale, hein, qui viennent consolider l'industrie française des Trente Glorieuses, hein, jusqu'en 1970. Alors ça, c'est très important de savoir. C'est encouragé par le patronat et les pouvoirs publics. 70% des immigrants en France arrivent en situation irrégulière. On a un tel besoin de main-d'œuvre que ça ne pose aucun problème d'arriver avec un visa touristique. Les Tunisiens qui arrivent dans le département de la Drôme, moi j'ai fait une petite enquête là sur les ouvriers agricoles qui viennent dans toute la vallée du Diwa, Cré, etc., Biovallée aujourd'hui, ils arrivent avec un visa touristique, voire pas de visa du tout. Hein. Et puis, ils sont plus ou moins régularisés. Si on ne les régularise pas, c'est aussi une manière de faire pression, hein, en disant bon, pour qu'ils acceptent des salaires plus bas que les autres, etc., etc. Et c'est à partir de 1972, c'est la fin des Trente Glorieuses, juste avant la crise du pétrole de 73, qu'on va effectivement durcir l'appareil législatif. 72, c'est les circulaires Marcelin Fontanet, hein, qui vont effectivement exiger que pour toute personne qui vient travailler en France, elle soit titulaire d'un contrat de travail en règle et d'un logement, hein, décent. Et à partir de là, donc, on va faire de la figure de l'immigré un des problèmes de société. Et c'est pas anodin, 72, c'est la création du Front National.
En fait, cette intervention fait partie d'une table ronde qui a été du coup diffusée sur Radio Royan en mars. Et c'était pour les 10 ans de R, une association qui fait de l'accueil et de l'entraide avec des personnes exilées qui arrivent dans le Royan. On va... T'as une coiffure, Chico, incroyable, des cheveux dans tous les sens.
Moi, je veux juste dire que la table ronde, elle est hyper intéressante et qu'elle est en entier sur le site de radioroyan.fr. Si vous tapez table ronde R, AIR, accueil interculturel en Royan, eh ben, vous la trouvez.
Et donc, on va écouter maintenant une deuxième intervention de ce même historien. Après la table ronde, il y avait des questions de personnes dans le public. Et il y a une personne qui a donc posé une question sur est-ce que ça a toujours été comme ça ? Est-ce qu'on a toujours dit des trucs est-ce que ça a toujours été long pour que les gens trouvent leur place ? Est-ce qu'on a toujours dit des trucs horribles sur eux ? Voilà, donc je vous laisse écouter cette deuxième réponse à la question.
Et je voulais un peu savoir dans l'histoire, justement, comment c'était passé, peut-être avec ceux du Sud-Est asiatique ou les Arméniens, comment ça s'est passé, justement, dans le fait de petit à petit arriver à travailler, à rentrer. Est-ce qu'à chaque fois, c'était long comme ça ? Parce qu'on a cette impression de longueur, d'urgence, mais en fait, le temps...
C'est une question extrêmement complexe. Je ne sais pas si je suis compétent pour y répondre, mais disons qu'on peut prendre des précédents historiques. Ce qui est assez difficile... À résoudre comme question, c'est qu'en fait, on est dans... disons qu'il y a des sociétés de l'abondance, il y a des périodes de crise économique. Moi, je pense que, par exemple, aujourd'hui, on a tendance à idéaliser... Alors, c'était rigolo, vous vous rappeliez, on a bien accueilli les Italiens, c'est pas vrai. On sait qu'il y a des périodes de l'histoire, fin 19e siècle, où il y a un climat d'italophobie, et que, dans le contexte de la première crise de la mondialisation, hein, des années 1875 à 1900, il y a vraiment une montée... Alors... italophobie côté français, une gallophobie côté italien, et l'avènement de ce qu'on appelle le nationalisme de frontières, qui à bien des égards résonne avec notre actualité, c'est-à-dire durcissement de l'appareil, ce qu'on appelle aujourd'hui la militarisation de la frontière dans le Briançonnais, par exemple, avec des dispositifs policiers surréalistes, hein, avec même maintenant les sentinelles qui sont là en principe pour lutter contre le terrorisme dans les espaces urbains, se trouvent distribués près du col du Mont-Genèvre. Donc il va s'en dire que c'est un théâtre à destination de l'opinion publique. Et ça, faut en avoir conscience. C'est-à-dire qu'on fabrique l'autre, l'étranger, la figure du migrant, de l'exilé, comme problème de société majeur. Et là, je pense que c'est vraiment un message destiné à ce qu'on croit être les peurs, hein. Alors, dans les contextes de crise économique, c'est assez récurrent. Depuis ce qu'on appelle, enfin, l'opinion publique, ça se met en place avec l'avènement de la presse de masse dans la seconde moitié du 19e. Et c'est vrai que dans le contexte des années 1890-1910, il y a vraiment des choses qui ressemblent étrangement à ce que l'on vit aujourd'hui dans l'altérisation, l'animalisation de la figure de l'étranger. Par exemple, concernant l'italien, il était vecteur du choléra. Hein. Et c'est vraiment, comme aujourd'hui, on pourrait dire, hein, je vous cite Pascal Praud, ce sont les étrangers qui véhiculent les punaises de lit.
Cette nuit j'ai fait un rêve où je partais vivre ma vie en mer. Le soir chaud dans la foule, car j'aime bien foutre ma vie en l'air. Il faut que je me mette au vert et mon compte bancaire en violet. Faites l'amour, pas la guerre, ça voulait pas dire nous violer. J'ai le rythme dans la peau et la musique dans la chair. Check pas la météo, je sais déjà que ça va chier. Au studio je suis jamais avachi, parce qu'un mauvais couplet ça coûte cher. J'ai jamais lâché l'affaire, même si j'ai connu quelques amis croches. J'ai une poignée d'amis proches, on se connaît depuis qu'on est petit. On préfère rester en équipe, toi tu viens nous voir, mais tu connais qui? Ils ont tout trafiqué, mais chez nous c'est grave chic. Hein. Nourri à la checker, parce qu'on est africain. Moi j'aime les open mic, c'est peut-être là-bas que tu m'as connu. Quand je rappe sur les réseaux, au lieu de parler de mon texte, ils vont parler de ma tenue. Sur Insta, j'agace les boomers. Apparemment, j'ai des textes un peu graveleux. Vraiment, je demande pardon à mes fans. Ils m'ont dit de faire les choses bien, j'ai fait grave mieux. On fait tout pour être jeune et riche. Je sais que ma mère prie pour exaucer mes wish. Je sais que je dois tout faire pour aider mes six. On est vrais féministes, on fuck les némésis. Ils m'ont dit ton rap, il est niche. Pour une renoie, t'es pas assez street. Pour une femme, t'es pas assez bitch. Pour une rappeuse, t'as pas assez de vis. Ah, vraiment petite, j'étais mims. Bonne note, que des ace au service. C'est par amour que mon père était sévère, donc si j'aime la prod, je lui inflige des sévices. Si c'est mes mots qui te choquent, c'est poétique, c'est poétique. Si c'est moi qui te choque, c'est politique, c'est politique. Cette nuit j'ai fait un rêve où je partais vivre ma vie en mer. Le soir chaud dans la foule, car j'aime bien foutre ma vie en l'air. Il faut que je me mette au vert et mon compte bancaire en violet. Faites l'amour, pas la guerre, ça voulait pas dire nous violer. Cette nuit j'ai fait un rêve où je partais vivre ma vie en mer. Le soir chaud dans la foule, car j'aime bien foutre ma vie en l'air. Il faut que je me mette au vert et mon compte bancaire en violet. Faites l'amour, pas la guerre, ça voulait pas dire nous violer.
Vous êtes bien sur Radio Royon 93 FM. On vient d'écouter une chanson de Just Chani qui s'appelle Violet. Et en fait, moi je l'adore parce que il y a cette punchline que je n'aurais jamais vraiment entendue si Léa ne me l'avait pas fait remarquer. Donc merci Léa, où elle dit on est vrai féministe, on fuck les némésis. Et juste petit topo sur les némésis au cas où vous serez passé à travers, ce que je vous souhaite. C'est un groupe de personnes qui se revendiquent féministes et qui sont ultra réactionnaires. Leur féminisme repose surtout sur la haine de l'étranger. Elles disent qu'en fait, elles ne se sentent pas en sécurité dans les rues parce que, eh bien, il y a beaucoup trop d'étrangers. Enfin, un truc horrible de xénophobie, de racisme mélangé, tout cela sous couvert de féminisme. Donc c'était pour, voilà, pour en parler. Enfin, surtout pour écouter la chanson qui était belle. Et maintenant, on va écouter quelque chose de joli aussi, un petit poème.
Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. Donc ça, c'est un poème d'Aragon, peut-être vous avez reconnu, qui a notamment été écrit au moment de la résistance pour dire ben, qu'on soit communiste ou qu'on soit catholique, c'est le moment de s'unir face au fascisme.
Et pour continuez cette émission, vous êtes toujours sur Radio Royan dans l'éclat des noctules. Et on va continuer en allant du côté de la Kanaky, la Nouvelle-Calédonie, avec un extrait du nouveau roman de Alice Zeniter, qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Frapper l'épopée. Alice Zeniter, elle a écrit L'art de perdre, notamment. Et voilà, pareil, un peu dans cette envie de décaler, de juste la focale de ce qui se passe en France métropolitaine et de donner aussi de la place aux enjeux pour d'autres qui vivent ailleurs et qui luttent aussi pour l'émancipation des êtres et le respect de la vie. Une petite plongée dans Frapper l'épopée.
L'obscurité qui enveloppe les aïeux de Thomas est vaguement familière. Elle recouvre les mêmes champs, les mêmes rivières, les mêmes noms de villages que ceux dont la vie de leurs descendants est faite aujourd'hui. Ceux de Tasse, eux, ont surgi d'un grand voyage dont ils n'ont transmis ni le pourquoi ni le comment. Ils sont arrivés au bout du monde sans en donner le moindre témoignage. C'est un bond furieux et muet par-dessus 20 000 kilomètres. Au commencement de leur famille, il n'y avait rien. Ça a duré plutôt longtemps. Et puis le verbe est venu, mais trop tard, pour raconter ce qui était vraiment intéressant. Heureusement qu'il y a Louise Michel pour écrire ce que ça fait de traverser si lentement la mer, enfermée sur un bateau, pour atteindre le bagne de la nouvelle. Son journal dit les écumes, les vagues, la lenteur, les avanies. Il évoque aussi les poèmes que les communards se passent de cage en cage, mais ça, Tasse ne peut pas l'appliquer à son ancêtre, puisqu'il ne savait pas écrire. Elle ignore comment il a fait passer le temps pendant 150 jours. 10 ans plus tôt, quand elle lui a dit qu'elle venait de Nouméa, Thomas n'a parlé ni des poissons, ni de Tahiti. Il a remarqué, pensif,
« L'existence de la Nouvelle-Calédonie implique celle d'une ancienne Calédonie, non ?»«
Oui, » a répondu Tasse. « Je crois que c'est l'Écosse. » »«
Et tu y es déjà allé pour faire une comparaison ?»
Alors qu'ils venaient de se rencontrer, ils s'étaient mis à planifier un week-end à Édimbourg. Tasse a souvent raconté ce premier échange. Il va falloir qu'elle se fasse à l'idée qu'elle ne le racontera plus jamais. Une main sur le bras de Thomas, sur son épaule ou sur sa cuisse, un sourire satisfait aux lèvres. La terre apparaît par le hublot. Maintenant, le voisin est réveillé et lui aussi voudrait voir. Il se penche un peu et avec son grand corps dense, c'est comme s'il lui faisait une cabane. Tasse ne proteste pas, elle s'arrange même. D'un plié de nuque, d'un affaissement des épaules, pour partager la vue. Ça paraît si improbable de découvrir de la terre, de la végétation, des humains, après des heures de vol au-dessus du Pacifique désert. Elle plisse les yeux pour distinguer les montagnes au vert sombre, les nuages emmêlés dans les sommets, la terre rouge qui s'écoule en serpentin de rivière, le lagon turquoise dans lequel les récifs dessinent des visages bleu foncé. Comment est-ce que cet archipel est arrivé là ?
Quand Tasse était enfant, les adultes lui avaient raconté l'histoire de sa terre à plusieurs reprises. Il y avait la version de l'école, qui, dans les années 1990, avait finalement accepté qu'elle pouvait enseigner aux Iliens autre chose que la grandeur métropolitaine. Il y avait les versions des amis de ses parents, qui se limitaient au petit bout de territoire où s'était déroulée leur enfance. Il y avait surtout la version de son père, qui s'étirait sans cesse au fur et à mesure que Tasse et son frère grandissaient. Toutes les versions s'étaient agglomérées jusqu'à ce que le territoire calédonien se présente pour Tasse de la manière suivante. D'abord, il y eut un morceau de terre détaché de l'Australie il y a 80 millions d'années, lors de la fragmentation du Gondwana, tombé au fond de l'eau puis ressurgi, hérissé de montagnes et de collines lentement recouvertes d'arbres durs comme du fer et de fruitiers verts profonds. Ensuite, il y eut les êtres humains, qui s'appelaient les Kanaks, et qui, au début de toute chose, n'étaient pas eux-mêmes d'ici, mais venaient d'autres îles du Pacifique, 2, 3 ou 5 000 ans avant nous, selon les coins de l'archipel. Comment ? On ne sait pas bien. Certains racontent que c'était juste après le déluge, que l'eau atteignait encore le sommet des montagnes, et que tout le monde flottait au milieu des débris, mais ces gens-là ont trop fréquenté les sœurs et les pasteurs. D'autres prétendent que ce ne sont pas les humains qui arrivèrent en premier, mais une igname dotée de paroles et capable de conduire un canot. Les humains se sont contentés de la suivre. D'autres récits refusent tout net l'idée d'une embarcation, qu'elle soit chargée d'humains ou de tubercules, et affirment que, bien sûr, le premier homme est né ici, d'une dent de lune posée sur un rocher et qui a pourri, car, en pourrissant, les dents de lune peuvent donner naissance à des serpents, à des anguilles, à des lézards, mais aussi à des hommes, au bout d'un très long processus. Toujours est-il que d'abord, ma fille, il y eut les Kanaks. Ensuite, il y eut les Santaliers qui allaient et venaient comme les courants d'air pour vivre du commerce du bois. Après, il y eut les missionnaires décidés à rester et à mélanger l'école aux évangiles. Puis commença le grand ballet du bagne. Les administrateurs, les matons et les forçats, ces derniers venus de tout l'Empire, envoyés par centaines, si bien ajoutés les unes aux autres qu'ils finiraient par être 25 000 à avoir été exilés ici. Il y eut les colons de peuplement, souvent attirés par de fausses promesses et se rêvant propriétaires de plantations. Ensuite, ma fille, ensuite. Il y eut des habitants des Nouvelles Hébrides, une ancienne colonie anglaise devenue aujourd'hui le Vanuatu. Il y eut des Javanais pour les emplois domestiques et tous ceux qui avaient « réussi », entre guillemets, qu'ils soient petits ou grands colons, devaient avoir leur javanaise. Au début du XXe siècle, il y eut les Vietnamiens et les Indonésiens engagés sous contrat, ce qui ne veut rien dire, asservis et plus juste, traités comme des esclaves, tout comme les Japonais qu'on expulsa avec rage pendant la Seconde Guerre mondiale.
Bien sûr, pendant la guerre, il y eut le temps des Américains, une époque d'abondance qu'on chante encore ici et au cours de laquelle il plut des rubans de goudron, des ponts et des véhicules à quatre roues motrices pour les parcourir. Oh, le temps des Américains! Il y eut, après 1962, quelques bandes de pieds noirs qui s'ancrèrent ici. Les plus célèbres firent les grandes carrières politiques et les autres débarquèrent les mains vides, mais détenteurs de la recette du couscous. Plus tard, il y eut les arrivées tourbillonnantes de métropolitains pendant le boom du nickel. Car depuis les premiers, par des blancs ou presque, il y eut les mines et leurs disciples, les découvertes et les épuisements de filons qui jetaient des hommes ici, puis les envoyaient là, au gré des surprises du sol. Le cobalt, le chrome, le manganèse et bien sûr le nickel. Attirant les métropolitains, les oreilles, qui restaient ou partaient quand le filon se terminait, comme une marée de métro apparaissant, disparaissant. « Et nous, Baba ?» demandait Tasse. « Et nous ? De quelle vague on est sorti ?»
Laisse-moi te répondre par une autre question, mon cœur. Comment tu t'appelles ?
Donc, pensée pour les Kanaks et pensée pour la Kanaki. Et on enchaîne par une chanson d'Isayasuke.
Des abeilles qui rappent les campis quand si t'as secoué tous les seins. Si je te dis que je connais tous les contours des ennemis, c'est que je peux t'en faire un dessin. Tu t'étales à critiquer tout ton entourage alors que t'es la moyenne des cinq. C'est con comme un facho qui rappe. En vrai, y'a pas plus indécent. Plein de projets pour moi et mes semblables. Dans la manif, on fait plus que les 100 pas. C'est pas de la danse, c'est juste qu'il s'appelle Samba. Calé dans le cortège avec tous les 100 papes. Pas de justice, pas de paix. Samba l'a crié milliers de fois. C'est sur rouge, sur peau d'ébène. La fabrique est à revoir, fait tous les défauts. Levez de l'extrême. Levez de l'extrême droit. Levez de l'extrême droit. Levez de l'extrême. Levez de l'extrême droit. Levez de l'extrême. C'est rien, c'est la rue. Tu nous as pas vus, mais tu nous entends venir. C'est rien, c'est la rue. T'aurais pas dû t'attoucher des points sensibles. C'est rien, c'est la rue, y'a comme un goût de piment au fond, je sais que t'as saisi. C'est rien, c'est la rue, tu nous as pas vus, mais tu sens que c'est la manif. Je vois des barrages de marais de gens, le butin est maigre, immigrant prend le large. Ils sont dérangeants, mais quand ça les arrange, pas pour amener la coupe ou donner le la. Trop de moutons pour peu de berger, je sais pas où déjà, ils connaissent plus sa droite et sa gauche. Le constat est long, pas d'abrégé, ils sont fatigants, pour ça que le temps d'abrégé. Levez mon extrême doigt, il a soufflé sur les braises à Fulda. Le ciel s'est pas compté comme un vrai toit. Pour la notation, il aura pas d'étoile. Qu'est-ce qu'ils imaginent? Bien sûr que dans nos têtes, c'est la manif. Vu les eaux dans lesquelles ils naviguent, ils s'étonnent, c'est le feu qui nous anime. Levez de l'extrême. Levez de l'extrême doigt. Levez de l'extrême doigt. Levez de l'extrême. Levez de l'extrême doigt. Levez de l'extrême, levez de l'extrême droit. Levez de l'extrême droit, levez de l'extrême, levez de l'extrême droit. Levez de l'extrême.
Pas la bêtise, c'est terrible. C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde. C'est la bêtise. Y'a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes. C'est pas de leur faute. Hein. Il y a des gens qui ont peur. Ça, c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça.
Alors, vous avez entendu Isayasuke. Si c'était que moi, on écouterait Isayasuke non-stop. Donc, je me contiens. C'est vraiment une super belle chanson. Je l'ai vue en concert, c'était folie. Tout le monde sautait partout. Avec le doigt levé, bien sûr. Alors, là, on va passer complètement à autre chose. Je voulais vous parler d'immigration et d'économie. Je sais pas trop où je m'engage en voulant vous parler d'économie, parce que c'est pas ma spécialité, et de la place indispensable des immigrés dans l'économie française. Mais bon, je crois que j'avais besoin d'avoir des arguments valables face à la xénophobie de l'extrême droite, et vous en faire profiter si vous comprenez quelque chose à ce que je raconte. Pour commencer, mes sources ne sont pas celles de dangereux extrêmes gauchistes, mais d'abord c'est une revue du Collège de France, La Vie des Idées, et une autre de l'Institut Montaigne, un think tank libéral fondé et dirigé par des grands entrepreneurs. Donc bon, voilà, on est bien quoi, quand même. Et les auteurs, c'est Mitya Oberti et Ekram Bouptan. C'est les personnes qui ont écrit les articles sur lesquels je m'appuie, même si je vais quand même faire un petit résumé et je n'irai pas dans le détail des mécaniques économiques parce que je ne maîtrise pas tout ça. Le premier article se focalise sur l'impact fiscal et économique de l'immigration dans le contexte français et le deuxième sur l'effet de l'immigration sur le PIB par tête, sur les dépenses publiques, sur le taux de chômage et l'ensemble de la population sur un temps court entre 5 et 10 ans. C'est deux articles qui sont relativement récents de cette année et on vous laissera les liens sur la page de l'émission bien entendu. Pour commencer, la France est en dessous des autres pays européens en ce qui concerne la croissance de la population immigrée, contrairement à ce qu'on nous raconte. Entre 2000 et 2020, on a une augmentation de 36% de la population immigrée, alors que pour le reste de l'Europe de l'Ouest, ça aussi entre 58% d'augmentation et 180%. En France, la population immigrée est plutôt peu diplômée et était jusqu'ici plutôt caractérisée par le regroupement familial. En fait, c'est de moins en moins vrai. On a un gros recul du regroupement familial, donc c'est pas vraiment ce que assène l'extrême droite et les fachos de tout... je sais pas quoi dire. Tout barque. En fait, l'immigration a un effet positif sur l'économie de la France. Bah ouais, dans les années 80, 90 et 2000, l'immigration a contribué à améliorer le niveau de vie moyen en augmentant dans ces années-là, après l'arrivée des immigrés, le PIB par tête. Sur le long terme, l'effet est neutre. Enfin, je veux dire, il y a un effet positif du coup sur les premières années d'arrivée, les dizaines, et ensuite ça a plus d'effet. Et vous savez pourquoi cet effet sur l'économie est positif ? Parce que les immigrés acceptent le travail que les Français ne veulent pas et cotisent pour les retraites, en plus de s'occuper des personnes dépendantes. Surtout, ces populations sont en moyenne plus nombreuses à avoir entre 20 et 60 ans, donc les âges où on cotise. Si les dépenses pour la famille, les enfants, les aides sociales en général augmentent aussi, par cette augmentation du coût de cette population, les cotisations reversées par cette population sont plus importantes que les dépenses. En termes économiques, le solde budgétaire s'améliore. Et il y a un petit argument sur la productivité, mais c'est vraiment un argument de droite, je vous le dis quand même, mais ça me fait pas rêver. La productivité de l'économie augmente aussi parce qu'en fait, on a une grosse spécialisation des tâches qui est créée par l'immigration d'une main-d'œuvre peu qualifiée. On spécialise des tâches parce que les personnes maîtrisent moins bien la langue, et en spécialisant les tâches, on crée de la productivité. Donc, vraiment un argument fordiste, mais bon, je vous le dis quand même, si au cas où vous voulez convaincre des gens de droite. Bon, alors la question de l'immigration, du coup, de la nécessité de l'immigration se pose, puisqu'on a vu que c'était un truc positif. Parce que, voyez-vous, Giorgia Meloni, qui quand même est la première à dire que vraiment il faut accepter personne, et qui fait, je vais pas promouvoir sa politique, surtout qu'elle a beaucoup embêté le secours en mer en obligeant les bateaux qui font du secours dans la Méditerranée à retourner au port après avoir secouru un bateau, ce qui crée des dépenses en termes de kérosène ou je sais pas ce que c'est, le carburant des gros bateaux, complètement absurde, écologiquement absurde, et humainement n'en parlons pas parce que du coup c'est pas possible de secourir des gens. Mais Meloni, en fait, en réalité, c'est la première qui, depuis 2011, a ouvert les frontières italiennes en créant... elle a fait un décret flux en décembre 2023 qui prévoit l'entrée régulière de 452 000 migrants, travailleurs, sur les années entre les années 2023 et 2025. Donc elle a créé, en fait, une possibilité de se régulariser pour plein de gens, alors que c'est exactement l'inverse de ce qu'elle dit, quoi. Voilà, juste... pour dire que l'économie et les économies européennes, en fait, elles peuvent pas fonctionner si on n'ouvre pas les frontières, parce que nous sommes des pays vieillissants. Et ça, c'est surtout pour les emplois peu ou pas qualifiés qu'on peut avancer cet argument-là. Parce qu'en 2023, par exemple, 61% des entreprises en France avaient des problèmes pour recruter. Et c'est surtout sur les métiers en tension, là, dont on a pas mal parlé au moment de la loi... La loi immigration, là, cette loi horrible qu'ils ont voulu faire passer en décembre dernier. parce que les personnes migrées représentent 38% des employés de maison, 24% des agents de gardiennage et de sécurité et 24% des ouvriers non qualifiés du bâtiment. Voilà. Et pour les emplois qualifiés, là où le discours politique est plutôt de soutenir ça avec un passeport talent créé en 2023 là par notre majorité présidentielle, les déboires administratifs sont tels que les employeurs se découragent en réalité à utiliser cet outil-là. Et les études montrent que la présence de migrations hautement qualifiées en sciences, en technologie, en ingénierie, en mathématiques crée de l'innovation. Parce qu'en fait, ces personnes-là déposent des brevets, créent des entreprises, et donc de la productivité. Mais même pour ça, eh bien, en fait, on va pas. On ne change pas les politiques et les propositions, du coup, d'extrême droite, comme on le sait, font le fou gras. Voilà. C'était un petit topo sur l'économie, assez court finalement, mais je voulais juste. Revenir sur à quel point en fait l'immigration est nécessaire à faire tourner notre économie.
Et on s'écoute un petit poème pour digérer tout ça.
Un autre poème de Souad Labiz, qui est une poétesse algérienne, extrait des Brouillons amoureux, paru aux éditions des Lisières. Dans un monde parfait, les doigts d'une seule main devraient suffire à compter les jours sans tendresse.
Et ben, ça fait une parfaite transition avec ce que j'avais envie d'amener, parce que de la tendresse, ben moi j'avais envie de parler de comment prendre soin de nous dans cette période particulièrement anxiogène, particulièrement violente, où on entend des choses qui nous heurtent, qui peuvent réveiller des traumas. Et voilà, bah, par exemple, la tendresse, et ben, c'est quelque chose dont on peut avoir besoin. Alors ça peut paraître un peu, comment dire, insignifiant ou pas forcément pertinent, mais moi je trouve que la question du soin, elle est quand même importante. Et dès l'annonce de la dissolution, il y a quelques semaines, il y a diverses propositions qui ont émergé partout autour de moi et puis autour de vous probablement aussi. Des moments de soins collectifs, par exemple des textos ou des listes, des envois sur des listes en disant « retrouvons-nous pour être ensemble », pallier à l'anxiété collectivement, pas rester seul. Il y a eu aussi des prises de nouvelles des uns, des autres, pour en gros tout ça dans la même dynamique de se relier et de se sentir moins seul. Et via des listes de diffusion ou des groupes sur Signal, des personnes ont fait circuler des liens avec des ressources pour du soutien en santé mentale, par exemple, notamment auprès des personnes queer, des lieux d'écoute LGBTQIA+, par exemple, comme moi, je l'ai découvert à ce moment-là, Leïla est là, ou encore une liste de psy inclusifs. Toutes ces ressources qui peuvent servir à nos communautés particulièrement vulnérables en cette période. Une personne a également envoyé une playlist, par exemple, qui donne de la force et met du baume au cœur. Je trouve que c'est aussi quelque chose de chouette aussi de se partager juste du bon son qui fait du bien au cœur, quoi. Sur une autre liste, une personne a proposé un atelier d'autodéfense féministe, par exemple, aussi juste après la dissolution, pour se dire bon, bah maintenant. Même si les ateliers d'autodéfense féministe sont quelque chose qui sont assez courants dans nos milieux, ben comment on va en avoir d'autant plus besoin là avec la violence fasciste montante. Et puis il y a aussi les réseaux de chorales de lutte et de chorales féministes qui se sont mobilisés, qui se sont retrouvés pour chanter ensemble. Je trouve que le chant collectif en termes de vibration, de tout ce que ça crée, comment ça nous nourrit, ça fait du bien. Donc il y a eu des chants lors de rassemblements par exemple, mais il y a aussi des créations de goguettes. Alors les goguettes, ce sont des reprises d'air connues avec des nouvelles paroles qu'on invente. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous en partager une goguette qui s'appelle « Pas le RN ». Donc merci aux chorales féministes d'Ariège qui se sont fait une session interchorale. Et voilà, c'est une goguette sur l'air de « Ça va, ça vient » de Vita et Slimane. Et qu'elles ont envoyé sur le réseau des chorales féministes. On écoute.
Dis-le-moi si tu te sens mal. Avec ces politiques, quand plus rien ne sait toucher ton cœur. Dis-le-moi si ça fait trop peur. On t'a tellement déçu que tu ressens de la rancœur. Tu sais, dans les urnes on peut se tromper. Mais on peut aussi se rattraper. Personne n'est parfait, mais on veut du mieux pour demain. Pour ça il faut voter le bon bulletin. Pas le RN, pas le RN. Bien trop de haine coule dans leurs veines. On le dit, on le dit,
voix en tous ces candidats. Souviens-toi, souviens-toi, on a déjà essayé les nazis à Vichy. Faut pas oublier, tu sais, dans les urnes on peut se tromper. C'est vrai, mais on peut aussi se rattraper. Personne n'est parfait, on veut du mieux pour demain. Pour ça il faut voter le bon bulletin.
Merci aux chorales féministes ariégeoises pour cette goguette. Puis vos rires font du bien. Donc moi, c'est le genre de choses que je reçois sur des listes de diffusion de personnes que je connais pas. Et voilà, que je trouve que dans cette période, ben ça fait du bien. Et puis aussi, il y a pas mal d'humour qui a été convoqué. Et on n'en manque pas hein, dans les milieux féministes pour contrer notre angoisse. Ou du moins faire feu de tout bois pour ne pas trop déprimer. Ça ça arrive tout le temps, mais particulièrement en ce moment. Et depuis le 9 juin, des affiches drôles et colorées ont pris d'assaut les réseaux sociaux et la rue à l'occasion des manifestations contre l'extrême droite, mais aussi dans le Royan Vercors. Il y a eu notamment ce site participatif créé très rapidement, le site 24x36.art a pour l'heure réceptionné plus de 2000 propositions, dont environ 200 sont disponibles sur le site et plus de 500 000 visites en quelques jours. Donc c'est un site participatif où on peut proposer ses slogans et aussi contribuer par des dessins quoi et du graphisme. Et si en ces temps anxiogènes, le dénominateur commun à toutes ces affiches est de créer des imaginaires politiques positifs avec du rêve, de l'humour et de l'amour aussi, le profil des participantes et participants à l'initiative, lui, est varié. Il y a des illustrateurs, illustratrices, des graphistes professionnels qui sont bien sûr impliqués dans des mouvements ou de nombreuses amateurs, amatrices qui ont fait des propositions. Alors moi j'imagine que vous avez quand même vu celle sur avec Aya Nakamura qui dit « y a pas moyen Jojo » ou alors celle sur le Front Populaire, le salon de coiffure du moment, le seul qui vaille la peine. Mais il y a eu aussi « Salade Tomate Union » que j'ai bien aimé, ou alors « Le Front de l'air est gay ». Je me suis dit « bon, ben voilà, c'est toujours agréable ». Ou alors le fameux « On s'engueulera plus tard » qui a fait débat, parce que pour certains, certaines, c'est quand même le moment de s'engueuler, donc voilà. Je ne sais pas si vous en avez vu qui vous ont plu particulièrement.
Franchement, non, hein, moi j'ai vachement moins reçu de trucs super que toi, je suis déçue.
Vous en avez vu dans Le Royan, peut-être?
Oui, le Royan emmerde le RN.
Ah oui, un grand drapeau, une grande banderole sur les falaises de Pont-en-Royan, le Royan emmerde le RN. Merci l'équipe. On m'a aussi dit qu'il y avait eu un immense tag à l'entrée de la ville de Mins, dans le Trièves, le village de Mins plutôt. Quand on arrive, il y a un immense tag sur une maison. Les fascistes manquent d'amour, je crois que c'est ça que ça veut dire. Et voilà, je trouve que... c'est un peu dans le même genre que le Royan emmerde le RN, mais avec vraiment ce truc de « mais si on s'aimait plus, s'il y avait plus de tendresse, comme le dit ce poème, peut-être que voilà, il y aurait moins de haine ». Alors en fait, on peut se dire que tout ça, c'est une manière de lutter contre l'impuissance, mais moi, je trouve que ça a le mérite de nous faire au moins du bien à nous, et on en a besoin. Voilà, il y a aussi eu des punchlines que j'ai bien aimées sur Facebook, comme « dispo pour un plan pro cul ». Je trouve que voilà, ça fait toujours de bien. Voilà, donc si vous aussi vous êtes dispo pour des plans pro cul, même si quand vous écouterez cette émission, le 7 juillet sera passé, on ne sait pas dans quoi on sera, mais on sera dans quelque chose. Voilà, gardez ça en tête. Voilà, et pour terminer, j'avais envie de partager quelques extraits de l'interview réalisée avec des camarades Laure et Quentin, qui proposent une approche sur le soin dans les milieux militants. Alors, c'est plus large que la situation actuelle, mais ça vaut pour tous les milieux militants et tout le temps. Ils et elles tentent de réconcilier des approches parfois antinomiques et comment on pourrait davantage prendre soin de nous dans nos manières de lutter ou de nous organiser, avoir conscience de ce qui se passe en nous, dans nos émotions, dans notre système nerveux, pour ne pas se faire écraser par les choses et générer aussi de la violence, éviter aussi le burn-out militant que on connaît bien. L'interview a été réalisée lors d'une matinale juste après le Festival des Résistances qui a eu lieu à Vassieux-en-Vercors le week-end du 8 juin. Et on écoute quelques extraits. Et on peut dire que vos actions peut-être s'inscrivent à l'encontre de la tendance actuelle, vous diriez ça ?
Oui, on peut dire ça comme ça. On a une tendance politique aujourd'hui qui va, une tendance politique et sociétale, qui va à l'accélération, qui va au conflit, qui va à l'exacerbation de la haine des uns, des unes et des autres. Et là, c'est ce que fait le gouvernement actuel. Il joue avec le feu, puisqu'il a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et que on pourrait bien avoir le Rassemblement national au pouvoir dans moins de 3 semaines. Alors que nous, ce qu'on propose sont justement des ateliers, des formations, des accompagnements pour dépasser les clivages, dépasser les conflits, essayer de mieux se comprendre, en fait, mieux se comprendre soi et mieux comprendre les autres.
Quentin, toi aussi, tu partages cet avis par rapport à l'actualité ?
Ouais, carrément. Je pense que face au repli sur soi qui est prôné par certaines parties politiques, nous, on essaie d'amener du lien et du prendre soin, qui va aussi construire de la communauté. Voilà.
Donc, relier plutôt que diviser, on pourrait dire.
Exactement.
Et du coup, vous avez un objectif, c'est de réconcilier quelque part la question de l'engagement, les milieux militants, les gens qui s'engagent, mais autant dans les associations que dans les collectifs, dans les mouvements politiques, on pourrait dire.
Oui, dans les hôpitaux, les écoles, en fait, il y a des gens qui s'engagent partout.
C'est la notion d'engagement au sens large. Vous avez envie de réconcilier cette manière de s'engager avec une approche plutôt de soins, on pourrait dire, est-ce qu'on pourrait dire de développement personnel ?
Oui, parfois c'est un mot qui peut faire peur. Pour nous, c'est important de repolitiser le bien-être tout en amenant des questions de soins et de bien-être au sein des engagements, et notamment des engagements associatifs et politiques.
Donc, politiser le bien-être, mais aussi faire des milieux militants, des espaces plus doux, où on prend en compte le soin. Du coup, vous aviez 2 ateliers là-dessus ce week-end au Makistan. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en donner quelques bribes de quelle thématique et puis comment ça s'est passé ?
Le contenu, oui, on a choisi d'animer 2 ateliers parmi ce qu'on propose. Un premier qui s'appelait « Épuisement militant et système nerveux ». Donc là, on pourra en reparler, mais on vient vraiment travailler sur la notion d'engagement et de ce qui nous permet de lutter ou de s'engager dans la durée, mais en prenant en compte les fonctionnements et les réactions automatiques de notre système, donc de notre corps, notamment les réactions automatiques face au stress, face au danger, qui s'inscrivent dans notre histoire, qui sont liées à nos traumas passés, qui sont liées à tout un tas d'éléments de notre vie. Et le 2e atelier était sur soins et oppression systémique. Alors c'est un bien grand mot, oppression systémique, c'est
oui,
tout ce qui
ça peut faire peur, on va en dire quelques mots.
C'est ça, mais ce sont dans les milieux militants notamment, ou pour les personnes qui s'engagent, dans toute la société en fait, tout ce qui est sexisme, racisme, islamophobie, sont des choses qui nous traversent et où il y a beaucoup de tensions, en fait, de conflits, parce qu'on ne sait pas comment traverser ça. Et donc, l'idée de ce 2e atelier, et je laisserai Quentin parler du premier, mais le 2e atelier visait à apprendre, à mieux se comprendre pour dépasser, pour arriver à en parler, en fait, à dire ce qui nous convient, à dire ce qui nous convient pas, à poser des limites et à ce qu'elles puissent être entendues.
Je pense que pour le 1er atelier, ce que je trouve important, c'est... En fait, notre système nerveux, il va définir aussi notre façon de percevoir le monde. Donc, pour nous, il y a cet entrelacement entre l'individuel et le collectif, le systémique. Et donc, comment, en fait, être au contact de ces mécanismes de défense, ça permet aussi d'être au contact des mécanismes de défense des autres et comment on peut créer du lien à l'intérieur, notamment en prenant soin, enfin, de ses propres mécanismes, mais aussi de comment ça résonne dans les autres et comment on se met en lien à travers ça.
Et du coup, dans ces ateliers, est-ce que du coup il y avait du monde ? Est-ce que c'est des approches qui... Parce que c'est un peu, je sais pas si on pourrait dire innovant, mais en tout cas, c'est peut-être des approches qui décalent un peu par rapport à ce que les militants militantes ont l'habitude de côtoyer. Et dans ce festival des résistances, là, au Makistan, ce week-end, est-ce qu'il y a eu du répondant au niveau des participants-participantes ?
Oui, alors tu soulignes un point qui est pour moi est très vrai, qui illustre beaucoup la façon dont fonctionne notre société occidentale et notre société française en particulier. C'est quand on s'engage,
langage, on a tendance à aller vers une culture du héros ou de l'héroïsation, de l'héroïne, on le dit comme on veut. Mais en tout cas, il y a cette idée que quand on prend des responsabilités, on devient indispensable. Et donc, il faut tenir, même quand on a des problèmes familiaux, des problèmes de santé, quand on trouve ça difficile de vivre l'actualité, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc là, en fait, on amène à prendre le contre-pied de ça. Et en fait, on voit que ce qu'on propose répond à une demande. Les personnes, en fait, ça leur fait du bien. Et puis surtout, à la fin des ateliers, elles viennent nous voir et elles sont mais pleines de gratitude. Elles nous remercient parce qu'en fait, elles n'ont pas l'habitude d'entendre qu'elles ont le droit de se respecter, qu'elles ont le droit de s'écouter et de faire ce pas de côté qui, sur le moment, paraît terrible parce qu'on a l'impression que tout va s'effondrer et que si on n'est pas là, le projet n'avancera pas. Alors qu'en réalité, c'est ce qui permet de le faire tenir dans la durée.
Oui, je rajouterais que ce thème du soin en milieu militant et dans l'engagement, c'est des choses qui existent depuis longtemps, mais vraiment c'est venu sur le devant de la scène au moins depuis à peu près un an et demi, et ça prend de plus en plus d'ampleur et les gens sont de plus en plus ouverts et ouvertes à ces questions-là. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir aussi des gens qui viennent même pour un atelier de 2 heures, déposer, se rencontrer, explorer ce qui les touche. Et c'est vraiment un beau moment aussi, quoi.
Bien, il y a plusieurs façons d'amener ça. La première, c'est de comprendre. Donc, c'est d'amener du savoir, tout simplement, de comprendre les réactions de notre corps, comprendre qu'en fait, qu'il y a des mécanismes automatiques à l'intérieur de nous qui sont contrôlés par le système nerveux autonome et qui, selon notre histoire, vont nous amener à réagir de telle ou telle manière. En fait, déjà, de comprendre qu'il y a une partie qui est dans l'automatique liée à notre vécu, à notre éducation, à notre traumas, je le disais il y a un instant, en fait, ça permet déjà de déculpabiliser. Alors, ça ne veut pas dire que c'est dédouaner entièrement, on a quand même une part de responsabilité, mais ça permet de mieux se comprendre. Et l'autre point, c'est d'amener aussi du savoir sur la dimension systémique. En fait, quand on comprend qu'en fait, on est baigné dans une culture qui nous pousse à ça, ça nous permet de reprendre du pouvoir pour arriver à faire ce pas de côté dont on parlait. Et ça, c'est la question du pur savoir cognitif, du savoir théorique. Mais ensuite, nous, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est vraiment faire de la pratique et de l'expérientiel. Donc, on est dans des ateliers très participatifs, où il y a du travail en petits groupes, en binôme, en grand groupe, mais qui va intégrer du mouvement, par exemple. Et le fait de le vivre dans le corps, le fait de vivre de la vulnérabilité, de la rencontre avec l'autre, le fait de vivre des temps de respiration, en fait, tout ça va faire qu'on va le sentir à quel point ça nous fait du bien. C'est-à-dire que c'est pas mental, on va pas dire aux gens « faites ci, faites ça, c'est bien pour vous, faites-le pour votre bien », mais c'est plutôt « on vous propose ça, qu'est-ce que ça fait dans vos corps ?» Et là, les personnes souvent réalisent qu'il y a du chemin.
Oui, je rajouterais qu'une des choses qui peut nous toucher quand on est dans une phase d'épuisement ou au bord de l'épuisement, c'est aussi la sensation de solitude, d'affronter ça seul. Et donc, nous, dans nos ateliers, ce qu'on aime bien, c'est du coup de mettre les gens en lien et juste de pouvoir partager sur leur expérience. Ça permet aussi de sentir qu'on est soutenu, de voir qu'on n'est pas seul à traverser ça. Et pour nous, c'est important.
Mais avant de se quitter, justement dans cette période, c'est pour un peu boucler la boucle sur la période dans laquelle on vit, qui est extrêmement violente, qui est extrêmement clivante entre les groupes de personnes, entre les individus. Et là, du coup, votre approche, on disait, elle va un peu à l'encontre de ça, ou en tout cas, elle propose quelque chose qui relie, qui dépasse les préjugés les uns sur les autres, enfin, des choses dont on aurait besoin pour vivre ensemble, en fait, faire communauté. Est-ce que vous auriez, des idées, des propositions pour cette période qu'on a là en ce moment de soins communautaires? Moi, il y a des choses que je vois passer un peu sur soit de liste des diffusions ou les gens autour de moi qui par exemple se regroupent. On a vu dans plusieurs villes en France, les gens sont spontanément sortis dans la rue, se regrouper, faire collectif, donc dans une forme un peu classique de rassemblement ou de manifestation. Mais nous, dans nos territoires ruraux peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut passer cette période qui est particulièrement anxiogène, qui peut réveiller des traumas transgénérationnels par exemple, mais aussi actuels? Est-ce que vous, là je vous prends un peu de cours, mais est-ce que vous avez des idées ou des choses à proposer?
C'est une grande question.
Oui, c'est une grande question.
Tu veux aider? Peut-être sans sortir des propositions de formation ou autre, parce que ça, les auditeurs, auditrices pourront aller trouver des ressources en ligne. Mais juste pour moi, la première chose, c'est d'être en lien. Et là, donc, nous, on est basé à Saint-Jean-en-Royan actuellement, là, pour quelques jours. Il y a une amie qui, suite à l'annonce de la dissolution, m'a tout de suite envoyé un message en proposant qu'on se retrouve pour discuter, partager nos coups de gueule ou nos joies ou nos espoirs quant à la situation actuelle. Et donc ça, pour moment, en fait, c'est dont on a besoin. Puisque la dépression, par exemple, qui est quand même un des grands maux de notre siècle, notamment en France, hein, grand consommateur d'antidépresseurs, eh bien, pour moi, le contre-pied à prendre, la solution, l'antidote, voilà, cherchez le mot. L'antidote à ça, c'est quand même la mise en lien. C'est la communauté. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est profondément individualiste, où on a eu des politiques publiques qui ont tendu à ça, hein, des influences de consommation, de marketing, le capitalisme, en fait, et le libéralisme, qui nous ont conduit à cet individualisme. Et pour moi, la base de l'évolution dont on a besoin aujourd'hui, c'est de sortir de cet individualisme, ces individualités, et donc refaire communauté. Et donc se retrouver, tout simplement, se retrouver, parler. Et il n'y a pas besoin de s'être formé en machin truc anglophone pour savoir faire ça, en fait. C'est un espace, un trottoir, une table dehors de pique-nique, je ne sais pas, pour recréer du lien.
Se consoler, se réconforter.
Se consoler, oui.
Oui. Carrément, et pour moi, c'est un premier pas vers une forme d'engagement, quelle qu'elle soit. Et en fait, l'engagement, ça permet de retrouver une forme d'agentivité, de maîtrise d'une partie de son environnement, et donc avoir la sensation qu'on peut faire quelque chose, que ça peut changer, qu'on peut s'engager en communauté, pas dans un truc très individualiste, mais plutôt en communauté. Et pour moi, c'est un premier pas aussi pour arriver à sentir qu'on peut avoir un impact et donc se sentir bien.
J'ajouterai quelque chose de tout petit, hein, mais c'est que parfois, couper les informations, couper la radio, alors pas celle-ci, ouais. Mais quand même, en fait, parfois on est addict au flot d'informations qui arrive de toutes parts et qui est profondément anxiogène, surtout si on regarde la télé. Donc il y a vraiment une invitation à parfois s'offrir des temps de pause, en fait, d'arrêter ce flot d'informations continu et anxiogène, et puis dormir, en fait, c'est la base, mais bien dormir, ça fait partie de ce qui nous permet de tenir sur le long terme.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter.
Qu'est-ce que c'était cette petite musique, Anaïs ?
Eh ben, c'était Strange Fruit. de Billie Holiday. Mm-hmm. Voilà.
C'était beau mais triste.
C'était beau mais triste. C'était. J'ai trouvé dans une playlist contre le racisme. Voilà. Alors moi maintenant, je vais vous faire un petit point sur les origines de l'antifascisme. Et alors c'est vraiment dans les grandes lignes, un peu vite fait comme ça. Donc soyez indulgents, il manque sûrement plein de choses très importantes. Alors déjà c'est une notion qui a vraiment une histoire européenne puis internationale, et parce que tout ce qui va se passer dans tel ou tel pays aura toujours un lien contextuel avec ce qui se passe dans les autres pays. Le terme, il a d'abord été utilisé pour désigner les opposants au régime fasciste de Mussolini en Italie dans les années 20. Et ensuite, c'est l'Internationale communiste, à partir de 22, qui institutionnalise l'antifascisme comme une catégorie politique à part entière. En gros, le terme, il se généralise pour parler de l'opposition aux extrêmes droites qui sont montantes un peu partout en Europe. Puis après, on a Léon Blum qui dit « La réaction fasciste ne passera pas suite à un événement dont je vous parle pas parce que c'est trop compliqué. » Même si ça n'a eu aucun effet, la formule elle est encore reprise aujourd'hui, et sa version espagnole qui a été prononcée, est-ce que vous savez qui c'est qui a prononcé No pasarán?
Non, mais tu vas me dire.
Ouais. Oh, peut-être pas en fait. Si, c'est Dolores Ibárruri qui a été surnommée la Passionaria lors de l'appel du 19 juillet 1936 à Madrid au lendemain du putsch franquiste. Voilà. Quelques jours après la prononciation là de la réaction fasciste ne passera pas par Léon Blum, il y a une journée du 12 février 1934 qui est une grande grève générale contre le fascisme, et suite à laquelle le territoire se maille de comités antifascistes. Et du coup, sous la pression de ces événements et de la base, les communistes ils finissent par s'engager pour la création de Front Populaire. Donc c'est vraiment un mouvement qui est venu plutôt du peuple, quoi. C'est-à-dire une alliance avec... Voilà, les Fronts Populaires, c'est une alliance avec d'autres partis de gauche pour faire barrage à l'extrême droite. Donc, comme ça a été repris cette année. Sauf que là, ça se fait un peu dans l'autre sens, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas?
Non, je crois que là, tu m'expliques.
Sous l'impulsion des grandes grèves qui sont venues de la population, que les partis ont décidé de créer cette alliance.
Ok, tu veux dire qu'il y avait un mouvement populaire antifasciste à l'époque?
Voilà, qu'il n'y a pas franchement aujourd'hui peut-être.
Ouais, qu'on espère que...
Qu'il renaisse, mais ouais. Voilà. Donc là, c'était un peu l'âge d'or de l'antifascisme, où le mouvement est tellement fort qu'il influence les partis politiques. Et après, dans les années qui suivent, c'est la guerre en Europe, et l'antifascisme y traverse les différentes composantes des mouvements de résistance un peu partout. Et par exemple, en Espagne et en France, c'est des groupes où on croise beaucoup de nationalités différentes. Après la guerre, l'histoire, elle continue, mais je vais pas vous la raconter maintenant, parce qu'il y a bien trop de choses à dire, et voilà, c'était juste les petites origines, comme ça, de l'antifascisme, et continuons le combat.
Mais ça mériterait de faire carrément une émission totale, complète, une heure et demie sur l'antifascisme, de faire une heure et demie sur le fascisme, voilà, peut-être que...
Bon, on n'a pas fait une heure et demie sur le fascisme.
Non, c'est pas vrai. Puis, de toute façon, quelque chose me dit qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres, des émissions.
C'était une émission antifasciste, mais pas sur l'histoire du mouvement antifasciste.
Tout à fait, c'est ça.
C'est juste la différence.
C'est ça.
Voilà, on arrive un peu vers la fin, il nous reste encore un petit poème.
Un poème également de Thomas Vinot, « C'est un beau jour pour ne pas mourir ». Le poème s'intitule « À découvert ». Parfois, l'horreur est à l'extérieur, d'autres fois à l'intérieur. Aucun des deux endroits n'est sûr. C'est tragique, mais pas dramatique. Ainsi, la vie est bien forcée de s'inventer. Merci à Yuri qui nous a fait suivre cette chaîne de poèmes. Yuri qui écrit aussi de la poésie, qui fait toujours du bien et qui fait partie des Noctules aussi. Merci beaucoup à lui.
Et voilà, c'est la fin de cette émission du mois de juillet.
On espère que c'est une émission qui vous a donné envie d'aller coller des trucs dans la rue, de vous organiser, de parler avec vos voisins au travail. Bref, faites barrage au fascisme.
Annulez vos vacances.
Annulez vos vacances, merde.
Oui, restez dans le royaume, par exemple.
Par exemple.
Et puis, faites-vous des câlins, si c'est ça qui vous fait du bien. Parlez, effectivement, retrouvez-vous avec les gens avec qui vous, vous partagez la même rue, le même quartier, le même village. Voilà. Alors pour l'avenir, bah, l'avenir est incertain, hein. Et l'avenir des noctules, tout à fait. Non, on reviendra.
On reviendra un jour.
On reviendra, c'est sûr. Pour l'été, bah, on va peut-être prendre des vacances, hein. Et le mois de septembre, on ne sait pas non plus. Ou faire la révolution. Enfin, faire. Oui, c'est ça. Les vacances, la révolution, finalement. Voilà, on revient bientôt. Vous pouvez toujours nous envoyer des petites cartes postales sonores, on aime ça, ou des cartes postales papier, soit à noctule@mailo.com, soit à l'adresse de la radio, Radio Royan. Vous retrouverez ça en ligne.
C'est Radio Royan, place de l'Église, je crois, 2690 Saint-Jean en Royan.
Voilà, merci, un grand merci à Gaëlle pour la technique avec tous les sons qu'on a diffusé ce matin. Puis
on vous laisse avec un classico,
ouais,
qui fait toujours du bien quand même.
On avait envie de que Diams soit avec nous ce matin finalement, et sa chanson Marine, sortie en 2004, mais complètement d'actualité finalement.
Ça va mal, j'ai trop de choses sur le cœur, donc il faudrait que l'on parle, Marine. Si je m'adresse à toi ce soir, c'est que tu es pour quelque chose, t'as tout fait pour que ça foire, Marine. Dans le pays de Marianne, y'a l'amour, y'a la guerre, mais aussi le mariage, Marine. Pourquoi tu perpétues les traditions? Sais-tu qu'on sera des millions à payer l'addition? Ma haine est immense en ce soir de décembre. Quand je pense à tous ces gens que tu rassembles, tu sais, moi je suis comme toi, je veux qu'on m'écoute. Et tout comme toi, j'aimerais que les jeunes se serrent les coudes, Marine. D'un prénom si tendre, un vrai prénom d'ange, mais dis-moi ce qui te prend, Marine. On ne sera jamais amis, parce que ma mère est française, mais que je ne suis pas née ici, Marine. Regarde-nous, on est beau, on vient des quatre coins du monde, mais pour toi on est trop. Ma haine est immense quand je pense à ton père. Il prône la guerre quand nous voulons la paix. Donc j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde qui? Le Front National, moi j'emmerde, 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 le Front National, moi j'emmerde, 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 j'emmerde. Marine, tu es victime des pensées de ton géniteur. Génération 80, on a retrouvé notre fureur. Marine, t'avais l'honneur d'être proche de l'ennemi, d'installer un climat paisible dans nos vies. Mais Marine, t'es forcément intelligente, t'as pas songé à tous ces gens que t'engraines dans l'urgence. Marine, t'es mon aîné et pourtant je ne te respecte pas. Il m'a fallu faire ce choix, Marine. Tu pouvais briser la chaîne, prendre la parole et nous rendre nos rêves. Mais Marine, t'as fait la même connerie que lui. Penser que le plan ne se mélange pas à autrui. Marine, on ne sera jamais copine parce que je suis une métisse et que je traîne avec Ali. Marine, plus je te déteste et mieux je fais. Et plus je proteste et moi nous payons les frais. Donc j'emmerde,
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 j'emmerde. Okay. Le Front National, moi j'emmerde,
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 j'emmerde. Okay. Moi j'emmerde,
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 j'emmerde, j'emmerde. Okay. Moi j'emmerde,
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 j'emmerde. Okay. Marine, tu crois vraiment que t'es dans saisir ta chance et que ton avenir est tracé, Marine. Je suis pas de ceux qui prônent la haine, plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête. T'as fait couler le navire, Marine. J'ai peur du suicide collectif des amoureux en couleur, Marine. Pourquoi es-tu si pâle? Viens faire un tour chez nous, Marine. J'aimerais tellement que tu m'entendes. Je veux bien être un exemple quand il s'agit de vous descendre, Marine. Tu t'appelles Le Pen. N'oublie jamais que t'es le problème d'une jeunesse qui saigne. Viens, viens, allons éteindre la flamme. Ne sois pas de ces fous qui défendent le diable, Marine. J'ai peur que dans quelques temps t'y arrives et que nous devions tous foutre le camp. Donc j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde qui? Le Front National, moi j'emmerde,
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 j'emmerde qui? Le Front National, moi j'emmerde,
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 j'emmerde, qui? Moi j'emmerde,
j'emmerde,
j'emmerde.
j'emmerde, yeah. Moi j'emmerde. Le Front National, moi j'emmerde, yeah. Ma France, elle emmerde. Ma jeunesse, elle emmerde. Et ma banlieue, elle emmerde, yeah. Ma France, elle emmerde. Ma jeunesse, elle emmerde. Et ma banlieue, elle emmerde, yeah. Marine, plutôt crever, plutôt crever que d'aller boire un café avec toi, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde.